Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde. Pas de couvert aujourd'hui, on mange avec nos doigts. Je pense d'ailleurs qu'ils seront vite teintés de jaune. Le curcuma. Aujourd'hui aussi, on oublie les idées toutes faites au sujet de la cuisine végétarienne, monotone, fat, ça c'est ce qu'on dit. Je vous assure qu'en matière de goût, d'inventivité, de saveur, la cuisine indienne végétarienne, c'est le festival. Plutôt, la cuisine, vous savez, la cuisine indienne végétarienne. Je vois tout de suite tout un pan du monde tendre l'oreille et le nez avec en pensée ses parfums. La Réunion, Madagascar, Maurice, l'Inde, évidemment. Bonjour Sandra Salmanji.
Bonjour Clémence.
Enfin, je peux vous appeler Sanji, je crois.
Oui, tout à fait.
Donc vos fans vous connaissent comme ça, fans de votre blog Bollywood Kitchen, de vos livres. Bollywood Kitchen, votre dernier livre est publié chez Mango. Avant Bollywood, il y avait eu Easy End et bien sûr, la cuisine indienne végétarienne. Pourquoi ce livre? Pourquoi la cuisine indienne végétarienne? Pourquoi est-ce que vous liez les deux?
Alors, la cuisine indienne est globalement végétarienne, pour plein de raisons. Alors déjà, c'est vrai que les Indiens consomment très peu de viande globalement, même ceux qui en consomment, donc ceux qui ne sont pas végétariens, ils vont plutôt dans leur quotidien manger des légumes et des légumineux. Et ça pour plein de raisons. Donc il y a des raisons de santé dans un premier temps, puisque les Indiens ont compris depuis longtemps que consommer beaucoup de viande n'était pas forcément très bon pour la santé, mais aussi pour des raisons tout simplement de financières aussi, parce que la viande coûte cher et donc on en consomme vraiment de manière occasionnelle. Du coup, le quotidien des Indiens, c'est vraiment une cuisine végétarienne.
Donc légumineuses, légumes, et tout ça dont
des
on va
céréales,
parler.
Voilà, exactement.
Et il y a ici une question de croyance et de religion. Il y a plusieurs types et formes de végétarisme en Inde.
Exactement, il y a plusieurs types et formes de végétarisme. Toutes les religions sont représentées en Inde. On a même, contrairement à ce qu'on peut penser, des Indiens qui mangent du bœuf ou même du porc. En fait, il y a vraiment toutes sortes de consommations de viande. Mais globalement, même ceux qui consomment de la viande, donc qui ne sont pas végétariens, vont avoir une alimentation plutôt végétarienne dans le quotidien. Ce sont un peu des flexitariens finalement les Indiens.
Des flexitariens.
Vous connaissez ça?
Oui, oui. Ça veut dire qu'on peut changer en fait un peu de régime. On adapte son alimentation.
On mange de la viande de bonne qualité, dans des petites quantités et de manière un peu occasionnelle.
Si vous deviez définir en quelques mots, c'est difficile ça, la cuisine indienne végétarienne, vous diriez que c'est comment?
Je dirais que c'est une cuisine forcément qui est savoureuse, parce que qui dit cuisine indienne dit cuisine épicée, donc qui dit épice dit saveur.
Mais ça c'est du parti pris.
Alors, je vous expliquerai après si vous voulez pourquoi. Mais du coup, oui, je dirais une cuisine qui est savoureuse, une cuisine qui est équilibrée et une cuisine qui est colorée aussi.
Très coloré.
Très coloré. C'est important, en fait, le visuel. Parce que le visuel, en fait, c'est quelque chose qui est forcément tentant. Et quand on mange avec plaisir, forcément, on mange dans des bonnes conditions. Et voilà, pour moi, c'est important, en tout cas.
On a de la couleur, on a des textures, on a des saveurs, on a aussi du cru, du cuit, du solide,
exactement,
du piquant, du tout ça, ça rentre en ligne
de compte. Il y a vraiment une notion d'équilibre dans ce que vous venez de dire. Et justement, en fait, quand on prend un peu les principes de l'Ayurveda, on a vraiment cet équilibre qui va se créer autour d'un repas indien.
Alors l'Ayurveda, qu'est-ce que c'est que l'Ayurveda? Déjà, c'est intimement lié à Ayurveda et cuisine végétarienne. On est vraiment dans les mêmes
Il y a un petit lien, mais la cuisine ayurvédique n'est pas forcément végétarienne. Mais il va y avoir un lien, effectivement. Déjà, l'Ayurveda, c'est la science de la longévité. Donc, c'est une science, en fait, ancestrale, qui se base, en fait, sur la qualité de vie et l'allongement de cette qualité de vie. Et forcément, la qualité de vie va passer par son alimentation, entre autres.
La santé dans l'assiette.
Exactement. La santé dans l'assiette, grâce aux épices, par exemple. Grâce à l'équilibre qu'on va créer dans son assiette. L'équilibre des saveurs, l'équilibre tout simplement des goûts aussi. Puisque, donc, l'Ayurveda est basée sur les 6 saveurs. Donc, vous les connaissez, les 6 saveurs?
On va dire l'amère, il doit y avoir de l'amère, du sucré.
L'astringent. Le sucré et le doux. Le piquant. Et ouais, l'acide. Donc, à partir de ces 6 saveurs, on va créer en fait un équilibre autour du repas. Mais ce repas, donc, est souvent végétarien.
Et cet équilibre, est-ce qu'il faut qu'on le retrouve à tous les repas ou bien c'est plus concentré sur les repas qui sont peut-être les plus importants?
Alors les repas, en fait, en Inde, on aime un peu manger n'importe quand, n'importe quel moment, etc. Il y a quand même des repas qui sont fixes en famille.
Mais cette cuisine de rue totalement foisonnante.
Exactement. En fait, cette cuisine de rue, c'est assez impressionnant parce que c'est vrai que du coup, on a l'impression que les Indiens vont manger tout le temps, à n'importe quelle heure, n'importe quoi d'ailleurs, parce qu'on peut manger du salé le matin, on peut manger du sucré tard le soir. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est ça que j'aime bien aussi dans la street food indienne. Maintenant, il y a quand même cette notion un peu de coupe-faim et de manière aussi de se nourrir, on va dire, un peu régulièrement pour combler en fait sa faim et pour se faire plaisir aussi.
Donc pour retrouver cet équilibre, imaginons si on doit avoir un repas, par exemple, typique qu'on va partager en famille, il faut que je retrouve quoi dans ce repas ?
Dans ce repas-là, on va essayer de retrouver ces 6 fameuses saveurs qu'on vient de citer. Donc du coup, il va y avoir des légumes verts aussi qui vont apporter des minéraux. Il va y avoir des céréales ou des légumineux, donc du dal, qui vont apporter un peu toute cette partie protéinée et les fibres. Il va y avoir aussi souvent du riz, donc. Il va y avoir d'autres types de légumes, donc des légumes de saison, souvent, puisque les Indiens aussi consomment beaucoup localement, et donc des légumes de saison. Il va y avoir également quelque chose de rafraîchissant. Donc, ça va être, par exemple, le raita. Le raita qui est cette petite...
Une sorte de yaourt.
Exactement, en fait, assaisonné. C'est une sorte de yaourt qui va être souvent un peu assaisonné avec un petit peu de citron et quelques légumes croquants et crus, qui va rafraîchir finalement le palais et même l'estomac, notamment quand on mange des plats un peu épicés. Et puis, il va y avoir, pour le côté un peu piquant ou acide, par exemple, un chutney ou des pickles.
Vous avez dit un mot, c'est épices. Est-ce que c'est très central, l'épice, dans la cuisine indienne, évidemment? La cuisine indienne végétarienne, peut-être plus encore, en termes d'apport de saveur et de goût?
Forcément. Alors, déjà, dans la cuisine indienne, généralement, forcément, les épices sont à la base, puisqu'elles vont justement un peu modifier la qualité des aliments. C'est-à-dire qu'elles vont leur apporter encore plus que leurs nutriments de base. Les épices vont avoir un rôle digestif, globalement, dans la manière dont on va les cuisiner et dans notre repas. Et puis ensuite, dans la cuisine végétarienne, l'avantage des épices, c'est vrai que elles vont un peu sublimer nos légumes d'un peu de tous les jours et du coup, des simples lentilles vont devenir un plat extrêmement riche et savoureux. Un simple plat de petits pois va devenir aussi très savoureux. Donc, ça va quand même avoir un intérêt.
C'est un art que de savoir manier ces épices. Moi, j'aimerais bien savoir qui est-ce qui vous l'a appris, cet art-là.
Alors, c'est vrai que la cuisine indienne, c'est une cuisine de transmission beaucoup. Moi, quand j'ai commencé à écrire des livres de cuisine, j'avais déjà quelques auteurs anglo-saxons en tête, de gens qui transmettent un peu leur savoir. Mais c'est vrai que c'est quand même, ça reste une cuisine qui est très traditionnelle et très familiale. Chaque famille indienne prépare ses propres mélanges d'épices qu'ils transmettent en fait à leurs enfants. Et du coup, on garde comme ça des recettes un peu familiales dans les familles. Donc c'est vrai que souvent, les gens ont envie de retrouver des choses qu'ils ont mangées au restaurant ou qu'ils ont mangées dans des familles. Mais c'est très propre à chaque cuisinier finalement.
Ouais.
Donc du coup, effectivement, moi, c'est plutôt mes parents qui m'ont transmis leur goût. Ma mère est une grande cuisinière, elle a toujours beaucoup cuisiné, on a toujours eu beaucoup d'invités à la maison, voilà. Ma grand-mère aussi un petit peu, qui a des recettes aussi un peu différentes de celles de ma mère. Et j'ai découvert récemment, en fait, que j'avais une grand-mère qui était pâtissière.
En Inde ?
À Madagascar.
À Madagascar,
ouais.
C'est ça, parce que vos parents...
La maman de mon papa. Et c'est marrant parce qu'il m'a dit ça il y a pas longtemps. Alors, je connaissais pas forcément l'histoire de tous mes grands-parents, que j'ai pas tous connus. Mais voilà, j'avais une grand-mère qui faisait des halvas, donc des petites pâtisseries indiennes.
Et donc, vous êtes aussi nourrie de ces épices-là, de ces saveurs, de...
Forcément, ouais. Peut-être même, parfois, inconsciemment, je me dis qu'il y a quelque chose qui a été transmis, parce que, voilà, je sais pas trop d'où ça vient, cette espèce de goût, et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment la cuisine qui me fait vibrer, quoi.
Votre épice préférée, parce que les épices, alors, c'est une très bonne chose, il y en a une quantité infinie.
Infinie.
Qui décline, on les cuit, on les cuit pas, on les rissole, on les frit, on les
Après, on a tendance à utiliser toujours un peu les mêmes. Moi, j'ai une petite base d'épices que
c'est
j'utilise.
C'est ça, l'essentiel, on va dire.
Voilà. Alors moi, dans mon placard essentiel dans mon épicerie, je dirais qu'il y a de la coriandre, de la cardamome, un peu de cumin. Du curcuma, forcément. Alors, le curcuma, ça fait vraiment partie du quotidien, presque.
Frais, sec.
Idéalement frais, mais c'est vrai qu'en épices, en poudre, on a plus tendance à l'avoir sous la main et à pouvoir un peu l'utiliser plus facilement que frais.
Parce que le curcuma, c'est une racine.
Exactement, c'est un rhizome.
Qui a plein de qualités.
Qui a plein de qualités. C'est un antioxydant, c'est un anti-cancer. Il va être aussi anti-inflammatoire. En fait, il va protéger le corps. Globalement. Du coup, le curcuma, c'est quelque chose qu'on va plutôt consommer très régulièrement pour se protéger, on va dire, d'éventuellement de maladies. Donc, au-delà de l'aspect un peu curatif, c'est plus ça aussi en prévention qu'on va utiliser le curcuma. Et c'est ce qui va nous garder, en fait, en pleine forme, qui va faire aussi un effet anti-vieillissant.
Donc, on note, curcuma, c'est pas grave s'il n'est
anti-ride.
Pas frais.
En Inde, on a des espèces de pommades, en fait, à base de yaourt et de curcuma, un peu comme des masques de beauté sur le visage. Alors évidemment, c'est un peu colorant aussi. Hein, mais
vous pourrez nous donner la recette.
Mais bien sûr.
On a dit curcuma, on a dit coriandre. Coriandre, plutôt les graines, plutôt...
Alors moi, j'aime les deux. J'aime la coriandre fraîche, ça c'est quelque chose que j'adore. Mais c'est vrai que la coriandre plutôt en grains, sèche, est un peu plus utilisée en cuisine indienne. Elle a le même petit goût, en fait, un peu citronné, finalement, que la coriandre fraîche qu'on peut utiliser. Mais c'est totalement différent, finalement, la graine de coriandre.
Grosso modo, vos épices, vous les utilisez après les avoir fait rissoler et frire?
Exactement. En fait, on utilise les épices de deux manières. On va les utiliser soit entières, et dans ces cas-là, effectivement, on va pouvoir soit les torréfier puis les moudre, soit on va les utiliser en poudre. Et dans ces cas-là, effectivement, on va avoir un petit travail sur les épices. Et comme vous disiez tout à l'heure, on va faire frire les épices. La cuisine indienne, alors c'est une cuisine qui peut choquer parfois quand les gens me voient cuisiner, mettre beaucoup d'épices dans mes plats et se disent « Oh là là, mais elle met beaucoup d'épices dans ses plats ». Mais sauf que moi, en fait, je les fais cuire et revenir mes épices. À la différence de quand on vient saupoudrer des épices dans un plat, on va avoir ce côté un peu astringent, un peu poussiéreux de l'épice. En les faisant frire, en fait, on perd cet aspect-là. Et du coup, on peut en mettre plus.
Du coup, ça a l'air d'un petit côté
Vraiment, ça vient exalter les saveurs des épices. Ensuite, elles vont se mêler aux oignons, à l'ail, à la coriandre, etc. Et du coup, on va avoir quelque chose qui se forme, en fait, qui va venir vraiment s'équilibrer et s'exalter.
On est d'accord qu'en Inde, comme en Afrique, et comme dans bien des pays du monde, quand on sait utiliser les épices et qu'on les connaît, on n'associe pas épices à force, on associe bouquet de saveurs.
Exactement. En fait, souvent, on fait déjà un peu l'amalgame entre les épices et le piment. Le côté piquant, en fait, va être apporté par plein de choses dans la cuisine indienne, notamment. Ça peut être apporté, évidemment, par du piment, piment frais, piment séché, mais également aussi par le gingembre ou l'ail, qui ont des goûts un peu piquants comme ça, et surtout crus. Maintenant, en fonction de la manière dont on va préparer les choses, en fait, on va perdre un peu ce piquant, ou on va justement vouloir en rajouter. Par exemple, si on rajoute du piment frais dans un plat, on sait qu'on va apporter vraiment du piquant. Maintenant, les épices vont apporter de la saveur et de la force, sans pour autant piquer. On peut avoir des épices douces.
Donc en fait, il y a une infinie de possibilités.
Une infinie de plats indiens et de mélanges d'épices.
Et c'est ça qui est extraordinaire.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Vous avez parlé de vos grands-parents, de vos parents qui vous ont appris à manier les épices. Il y a un mélange d'épices qu'on va dire peut-être symbolique de cette cuisine indienne, c'est le garam masala.
Exactement.
Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il y a dedans et comment vous le faites, vous?
Alors justement, le garam masala fait partie de ce mélange d'épices que chaque famille va faire soi-même.
Est-ce que vous mettez de la vanille, par exemple, dans votre garam masala?
Non, pas du tout. Mais on peut. En fait, le garam masala, c'est un mélange d'épices qui peut contenir de 5-6 épices jusqu'à une trentaine d'épices. Donc ça veut dire que la palette est hyper large. Maintenant, en fonction des habitudes qu'on a dans sa propre famille, on va mettre plus ou moins d'épices et on va mettre certaines épices en certaines quantités aussi. Par exemple, moi je sais que dans ma famille, la cannelle est une épice qu'on n'affectionne pas particulièrement. Dans certains mélanges de garam masala, la cannelle va être un peu prédominante. Nous, ce qui va être plus prédominant, ça va être peut-être plus... la cardamome ou le clou de girofle. Je sais que c'est quelque chose qu'on utilise plus dans le mélange qu'on m'a transmis ma famille. Il va y avoir aussi de la coriandre, il va y avoir un peu de cardamome noir aussi, du cumin. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre?
Des graines de moutarde ou
alors
ça
la graine
pas
de moutarde en général, elle est utilisée à part. C'est pas quelque chose qu'on va moudre et qu'on va intégrer au garam masala. C'est quelque chose qu'on va rajouter. Et d'ailleurs la graine de moutarde, elle se marie très très bien avec les légumes. C'est quelque chose qu'on va utiliser principalement pour associer à des légumes.
Pour exhauster le goût des légumes,
exactement.
Plutôt les mettre en valeur, enfin les présenter différemment.
En général, les épices servent à ça, effectivement, à justement mettre en valeur les légumes.
De toute façon, on notera bien sûr sur le site internet du Goût du Monde les recettes qu'on aura glanées dans vos livres, Bollywood Kitchen et évidemment la cuisine végétarienne indienne. On a parlé de faire frire et rissoler, faire cuire en fait ces épices, ça fait aussi exhaler les parfums. Donc on a un parfum brut dont on va servir tout de suite quand on les cuisine. On les cuit pas dans n'importe quoi. ces épices.
Non, on les cuit pas dans n'importe quoi. Alors, on utilise ce qu'on appelle le ghee.
C'est toute une aventure.
Ouais, toute une aventure qu'on peut faire soi-même.
Je dis toute une aventure parce que pour beaucoup de gens, le ghee est un beurre clarifié, donc qui est débarrassé de sa crème.
Exactement.
C'est un peu un Everest. On a l'impression que c'est extrêmement difficile à faire.
Alors,
parce qu'on
se
dit séparer la crème du beurre.
Non, et puis alors en plus, le ghee convient aujourd'hui aux gens qui sont intolérants au lactose, puisque justement, on a retiré cette caséine. Alors, pour faire du ghee, c'est simple. Il suffit de faire cuire à petit frémissement un beurre de très bonne qualité. Alors, pourquoi je dis un beurre de très bonne qualité? Parce que si vous prenez un beurre de mauvaise qualité, quand vous allez le faire revenir à petit frémissement dans une casserole, toute l'eau qu'il contient va s'évaporer, va pas vous rester grand-chose. Donc, les beurres de mauvaise qualité, en général, sont des beurres qui sont foisonnés avec de l'eau.
Du lait de vache.
Exactement. Du coup, quand on va faire fondre ce beurre et le cuire à petit frémissement, le beurre, en fait, va un peu colorer. Légèrement, donc il faut pas qu'il colore trop, on veut pas qu'il devienne non plus noisette, mais du coup va se déposer à la surface du beurre, en fait, justement cette petite protéine de lait qu'on appelle la caséine, et c'est ce qui brûle finalement quand on chauffe du beurre trop fort. Et vous savez, c'est ce qu'on dit qui bouche les artères quand on consomme un beurre. Du coup, ce beurre-là, en fait, va être extrêmement bénéfique pour les personnes qui ont des problèmes de cholestérol. Mais surtout, en fait, et pourquoi on l'utilise dans la cuisine indienne, c'est que ce beurre, en fait, on dit qu'il va venir justement sublimer nos épices. Parce que, en fait, finalement, il va atteindre un niveau de chauffe qui va être pile, en fait, ce qu'il faut pour nos épices. C'est-à-dire qu'il va pas les brûler. Il va vraiment venir exalter toutes les saveurs au moment de la fusion, en fait, de la température.
Ouais, c'est ça qui est très très utile dans le ghee.
Mais c'est génial.
Et comme il est débarrassé de sa caséine et donc de cette protéine de lait, on peut le conserver. Donc ça veut dire quand
exactement.
On fait du ghee, autant le faire. Comme ça prend un petit peu de temps quand même, il faut mesurer
sur
général, combien de temps.
Moi je prends, par exemple, je vais faire l'équivalent de 3 plaquettes de beurre. Bah après il faut compter une petite heure, une heure et quelques en
donc
fonction des quantités.
Donc on en fait quantités. Pas mal, comme ça on met ça dans un bocal en verre
exactement.
Par exemple, ou dans un récipient, et on peut garder ce ghee très
et
longtemps dans son placard.
Et l'utiliser avec une cuillère, le doser comme on veut.
Et pas besoin de frigidaire, c'est une obsession.
Alors, pas besoin de frigidaire, moi je vais avoir tendance à le conserver au frigidaire pour déjà le garder un petit peu plus longtemps, pour être honnête. Surtout, en fait, le ghee, quand on le conserve à température ambiante, il peut avoir ce petit goût de rance qui peut être un peu dérangeant et que parfois on ne peut ne pas apprécier. Donc au frais, vous êtes tranquille et il garde toutes ses saveurs et toutes ses propriétés.
Et c'est un petit goût de... Moi, je dirais, comment vous qualifieriez le goût du ghee?
Un peu de noisette. Justement, ce côté un petit peu noisette qui est super agréable. Et puis une jolie couleur dorée aussi.
Mmh. Utilisé aussi en Éthiopie, dans beaucoup de pâtisseries
au Moyen-Orient. Il me semble que c'est utilisé dans beaucoup de pays, effectivement.
Ouais.
Parce que je pense que, justement, en fait, il y a quelques temps, enfin, il y a longtemps de ça, et même encore peut-être aujourd'hui, hein, on n'a pas forcément tous des systèmes de conservation et du coup, en fait, ça permet de conserver finalement sans frigo, ce beurre-là.
Donc c'est mon beurre préféré.
Le goût du monde. Clémence Denavy.
Les pieds plantés dans...
canopée de Polo et Pan sur RFI dans le goût du monde. Nous avons le nez plongé dans le parfum des épices et dans celui du ghee. Nous sommes en Inde, à Maurice, à La Réunion, à Madagascar et dans bien notre pays. Peut-être même un petit peu en Éthiopie avec le ghee. Nous parlons de cuisine végétarienne indienne avec Sandra Salmanji. Sandji qui publie Bollywood Kitchen chez Mango. C'est le dernier né, juste après un livre consacré à la cuisine indienne végétarienne. Un mot peut-être, puisqu'on a parlé du ghee, un mot peut-être de cet unique fromage indien.
Ah, paneer, c'est le paneer.
Très mystérieux en ce qui me concerne. Alors déjà, il a quel aspect, il a quel goût?
C'est marrant parce que c'est pas un fromage qui est extrêmement populaire en France. Il est un petit peu connu, surtout pour les végétariens, parce que c'est du coup ce qui va être un peu comme le tofu chez les Asiatiques, chez les Japonais. Alors, le paneer, finalement, c'est un fromage qui est tout simplement un fromage à base de lait de vache. Et c'est juste tout simplement du lait de vache caillé qui est ensuite pressé et qui... soit on va directement l'utiliser tel que, donc un peu grainé comme ça, soit justement en le pressant, on va former un espèce de bloc, et du coup on va pouvoir ensuite découper ce paneer en morceaux, et soit le faire revenir, soit le paner, soit tout simplement l'intégrer à un plat d'épinards pour faire un palak paneer. Voilà, mais le paneer finalement ça se fait très facilement à la maison.
C'est très utilisé en Inde dans la cuisine.
C'est assez utilisé,
ouais. Quotidien.
Ouais. Alors les Indiens, j'ai remarqué ça dernièrement quand je suis allée en Inde, ils ont tendance à plus trop le faire à la maison. C'est quelque chose qui s'achète dans la rue, dans des petites échoppes, et qui fait vraiment partie du quotidien des Indiens, ouais.
Parce que vous donnez
ça
la recette.
Ça s'achète à la louche un peu comme ça. Dans la rue.
D'accord. Et ça se conserve dans du petit lait, du coup ?
Exactement, en fait, dans le petit lait qui a servi à le faire justement cailler.
Et est-ce qu'on peut faire frire les côtés du paneer ?
Moi, c'est ce que je fais. En fait, en général, je fais des morceaux, je découpe des morceaux de ce paneer que j'essaie de garder un peu souple quand même, parce que c'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce côté un peu souple. Et c'est ce qui peut être dérangeant aussi, il peut avoir ce côté un petit peu caoutchouc comme ça. Et du coup, en le faisant revenir avec un petit peu de curcuma dans du ghee justement, on va le faire un peu doré sur les côtés, donc il va avoir ce côté un peu croustillant et un peu fondant en même temps à l'intérieur. Le paneer froid comme ça... C'est pas hyper intéressant, mais dès qu'on le fait un peu revenir ou chauffer dans un plat, là, il devient un petit peu plus fondant et c'est assez agréable.
Et son épice, alors, avec laquelle on le mêlerait le plus volontiers?
Moi, j'ai tendance à le mêler soit avec du cumin, soit avec du curcuma.
Un paneer. Donc, ouais. Palak paneer, on se souviendra.
Et c'est le fromage quand on mettait à la base dans le nano fromage, le fameux pain indien qu'on garnissait de paneer en Inde. Enfin, qu'on garnit toujours de paneer en Inde.
Oui, parce qu'en France, on le...
Il y a plein de manières de le garnir en France, mais une mais qui est très particulière, qui est la vache qui rit.
Donc, ce produit industriel
que les Indiens n'utilisent pas vraiment, mais qu'ils utilisent en France pour les Français qui leur ont demandé finalement.
Ça a quel goût, le paneer?
Le paneer, c'est très neutre finalement. Je dirais que c'est un peu comme la mozzarella, c'est ces fromages qui n'ont pas beaucoup de goût, qui ont goût de lait de vache, quoi. Mais pas vraiment beaucoup de goût. C'est plus ce qu'on va lui apporter autour, dans quoi on va le consommer, qui va apporter du goût au paneer, finalement.
Bon, moi, je vous propose maintenant, parce qu'on a un tali, donc ça, c'est le plateau,
ouais,
qui est en métal, avec des trous dedans.
Exactement.
Dans lesquels on met les sauces, dans lesquels
qui
on met...
Qui représente bien un peu cet équilibre et ce repas complet indien, finalement.
Est-ce que ces repas peuvent être servis sur des grandes galettes?
Alors non, nous, on fait pas vraiment ça. En fait, les pains indiens, donc soit ce que vous appelez la galette, là, ce serait pour nous, en fait, le chapati ou le rôti. Donc, c'est une petite galette à base de farine semi-complète. Nous, en fait, ça nous sert de cuillère pour manger. Donc, tout à l'heure, on disait on mange avec les doigts. En fait, on s'aide aussi souvent de cette petite galette...
Pour pouvoir attraper.
Pour attraper, ouais, exactement.
Dites-moi juste, Sandra Salmanji, on va peut-être prendre un petit peu de chutney. Qu'en dites-vous? Alors, le chutney, on est avec une origine anglaise, là encore, dans
le nom. Ouais, c'est vrai. Alors, le chutney, aujourd'hui, c'est devenu un condiment, une sorte de petit accompagnement qui va venir, encore une fois, apporter une petite saveur supplémentaire à notre repas. Souvent, en fait, elle est assimilée à quelque chose un peu d'acidulé, puisque finalement, c'est une sorte de confiture un peu sucrée-salée. Elle est souvent faite à base de fruits. Et elle va apporter ce côté un peu piquant et un peu acidulé, et le chutney va être un peu consommé tout au long du repas finalement. Le plus populaire, c'est le chutney à la mangue.
Alors j'ai vu dans votre livre qu'il y a un chutney noix de coco piment.
Alors effectivement, donc là, dans ce cadre-là, donc de ce chutney à la noix de coco,
là on n'est pas dans le sucré.
C'est plus un condiment.
D'accord.
Voilà, c'est vraiment le chutney en tant que condiment. La noix de coco, on va apporter un petit peu de rondeur aussi à notre plat, un petit goût, côté un petit peu sucré et un peu rafraîchissant aussi. Moi, ce que j'adore, c'est aller faire mes petites courses dans le quartier de la Chapelle.
Donc c'est dans le nord de Paris. Il y a vraiment tout un quartier
exactement.
Avec plusieurs rues où il y a des supermarchés. On peut se fournir justement en épices.
Exactement. C'est un peu des grandes cavernes d'Ali Baba avec.
Je crois qu'il y a même des gens qui râpent des noix de coco.
C'est ça, exactement. Donc moi j'ai mon petit, ma petite boutique fétiche où je me rends pour justement acheter de la noix de coco fraîche. Donc on a un monsieur qui coupe les noix de coco, qui va avec une espèce d'appareil un peu spécial râper l'intérieur de la noix de coco pour vendre donc dans des petits sachets l'équivalent d'une noix de coco râpée fraîche. Et alors ça, mixé avec quelques épices, un peu de piment, un peu de coriandre fraîche.
Piment vert, piment rouge?
Plutôt vert là pour le coup. On obtient un petit chutney à la noix de coco hyper rafraîchissant.
Vous avez faim là hein?
Ah bah ouais.
Est-ce que tout le monde a faim? Parce que moi j'ai faim. Donc le coco piment vert, ça donne très envie.
Ça marche bien, ouais.
Et on mélangerait ce chutney avec un légume peut-être ou un légume
farci.
Alors farci.
En général, on va pas mélanger le chutney. Il va venir vraiment en condiment. Il va vraiment venir apporter une petite touche. C'est marrant de dire mélanger parce
en fait.
Que justement, ouais, exactement. Cette histoire justement de Thali avec ses compartiments, il est très important. Les Indiens ne vont pas, par exemple, prendre une assiette, mettre une sorte de riz et puis rajouter dessus. En fait, les curry. Non, il va y avoir vraiment cette notion où le mélange se fait finalement dans la bouche plus que dans l'assiette. Et du coup, on va consommer des petites touches de chaque plat et les consommer, les équilibrer au fur et à mesure en les mangeant. Mais on mélange pas tout dans l'assiette, ça se fait pas du tout. Bizarrement.
Et en même temps, c'est très bien, comme ça on découvre toutes les saveurs et après
saveurs
au fur et à mesure de son repas, on compose aussi le goût qu'on a envie d'avoir dans la bouche.
C'est exactement ça.
Donc c'est
et
très
puis quand on a envie de se rafraîchir, on va aller plus vers un petit rafraîchissant. Quand on va avoir envie d'une touche un peu plus sucrée, on va se tourner vers le chutney aussi.
Alors donc, on a notre chutney de coco, les pickles aussi, très intéressant, les pickles. Alors les pickles, c'est un mot anglais, des légumes crus, cuits, marinés. C'est
ouais, alors en fait, ils vont cuire dans le vinaigre finalement, donc dans l'aigreur, en l'acidité du vinaigre. On utilise encore une fois des produits de saison, donc tout peut y passer avec le pickles. Vous pouvez faire des pickles de tout, de concombre, de chou-fleur, de carottes, d'oignons, de tout ce que vous voulez, même de gingembre. Ça se conserve en plus très très bien. L'idée, vous voulez la recette?
Je veux bien.
Ouais, l'idée, c'est
pickles
de...
gingembre, ça me dit
alors,
bien.
L'idée, c'est d'avoir des belles tranches de gingembre et d'oignons. Alors, si on prend un gingembre et qu'on veut garder la peau, ce qu'il faut savoir que dans le gingembre, l'écorce, en fait, est remplie de minéraux et de nutriments. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt acheter un gingembre bio pour pouvoir justement garder cette écorce. Donc on va faire des fines tranches de gingembre, on va ensuite faire un peu chauffer donc pour dissoudre du sucre avec du vinaigre, donc c'est à peu près un temps pour temps, donc c'est autant de vinaigre donc que d'eau, vinaigre blanc tout simplement, un peu de sucre et on va verser ce mélange là sur donc nos légumes, donc là donc le gingembre
et l'oignon. Ça se marie bien, gingembre et oignon, c'est un mélange que vous feriez en pickles?
Pourquoi pas, ouais. Alors après, moi j'ai tendance à faire des oignons à part parce qu'en général j'aime bien faire des pickles d'oignons rouges, et l'oignon rouge en fait en pickles, quand on va venir apporter donc le mélange de vinaigre, il va décolorer et on va avoir un jus de pickles rose super beau. J'aurais eu tendance à dire que ce serait dommage de colorer le gingembre. Donc du coup, je le ferais peut-être à part si on prend des oignons rouges.
D'accord.
Donc du coup, ça marche avec tout. Et ça va apporter, en fait, donc ça va rendre notre gingembre un peu plus croquant encore et un peu acidulé. Et du coup, ça peut se croquer comme ça un peu.
Mais est-ce qu'on met des épices également dans
Pas forcément. De temps en temps, j'aime bien rajouter quelques grains de coriandre concassés. Mais on n'est pas forcé de rajouter des épices.
Mais c'est bien d'avoir le goût. Du légume.
L'acidité du vinaigre va prendre beaucoup de goût aussi, donc l'épice, elle risque d'être un peu...
D'ailleurs, en Inde aussi, on aime beaucoup faire des pâtes. Les pâtes de gingembre, les pâtes
on
d'ail,
adore.
On mélange
on adore.
Les deux.
On adore, mais parce qu'on est un peu fainéant aussi, parce qu'on n'a pas envie de faire ça tous les jours. En fait, c'est vrai que l'ail et le gingembre, ça fait partie vraiment des ingrédients qu'on va utiliser au quotidien. On va les faire frire avec des épices, ça va être une base en fait qui va constituer notre base de démarrage de la plupart des currys. Donc du coup, pour éviter d'avoir à éplucher, dégermer l'ail, etc. et en faire une pâte, quand on est bien organisé, on va faire des pâtes d'ail et de gingembre qu'on va conserver au frais avec un petit filet d'huile pour pas que ça s'oxyde et pour pas que ça s'abîme, et qu'on va utiliser à la petite cuillère finalement après au quotidien.
Oui, c'est ça, dans sa cuisine. Du coup, c'est facile, c'est sous la main.
Bah, c'est très facile. Après, ça demande un petit peu de temps de préparation. Moi, j'ai de la chance, ma maman me les fait encore. Elle m'en apporte régulièrement. Elle vient toujours chez moi avec un petit pot de pâte d'ail ou de pâte de gingembre frais. Donc ça, c'est vrai que j'ai de la chance. Et sinon, l'avantage, c'est vrai que c'est qu'on va les utiliser quotidiennement. Voilà, et du coup, on n'aura pas besoin de s'occuper de toute cette préparation et on va gagner du temps dans sa cuisine.
Dans la cuisine indienne. Alors, je rajoute végétarienne parce qu'on fait attention, évidemment, la végétarienne exclut la viande. On n'aura pas de viande, mais sinon, c'est une cuisine qui est très homogène, en fait, c'est la cuisine de tous les jours. Donc, le distinguo, il se vaut, mais finalement, au quotidien, pas tellement. On a évidemment du riz dans son tali.
Tout à fait. Moi, je suis originaire du Nord, plutôt de l'Inde, donc du Gujarat. Et c'est vrai que dans le Nord, on a tendance à manger beaucoup de riz. Et le riz, en fait, fait partie vraiment du quotidien. C'est un riz qui va être souvent associé à des dalles, donc aux légumineux. Et du coup, qui va être un apport en protéines très important. Et c'est pour ça, en fait, finalement, qu'il fait partie du quotidien.
Et d'ailleurs,
pour justement tous ces apports.
Et le dal serait plutôt du Sud ou
Non, pas forcément. Ça va être partout en Inde, on va manger du dal. Après, on va peut-être plus avoir tendance à manger des pains, donc plus à utiliser des pains à la place du riz dans le sud de l'Inde.
Alors bah justement, moi le dal, c'était un peu une autre de mes obsessions, décidément je me confie aux auditeurs. Et le dal, j'ai voulu savoir un petit peu comment on le fabriquait, comment on le faisait, comment on le préparait. Je suis donc allée chez un maître en la matière. C'est un de mes collègues qui m'a dit, si tu veux goûter un dal et apprendre à faire un dal, va donc chez Akshay Bakaya. Il est professeur de Hindi à l'INALCO et à Sciences Po à Paris. C'est un excellent cuisinier. Il m'a donc appris à cuisiner ce fameux dal. Merci de me recevoir. C'est incroyable chez vous. Vous êtes à la campagne, dans la ville, c'est génial.
Oui. En Inde, on appelle ça masoor. Il y a toutes sortes de lentilles. Chaque lentille a un nom. Masoor, tour, arhar, chane ki dal. Ça, par exemple, ça s'appelle urad ki dal. Et là, il reste de...
C'est des pois cassés, ça, non?
C'est plutôt quelque chose qui est plus proche des petits pois. Matar ki dal.
Ça, ça va faire toute une casserole, hein, une fois que ça va gonfler.
Ah, je vais. Et au début de la cuisson, on va mettre un peu de poudre de curcuma.
Et pourquoi?
Ça rajoute une couleur jaune et surtout le goût du curcuma. En hindi, ça s'appelle haldi, c'est curcuma.
Au pif?
Oui, une petite cuillère, comme ça. On va mélanger ça. Chaque fois, c'est au pif, hein, donc c'est jamais le même dal.
Très bien. On voit presque plus les morceaux d'oignon. Donc, fondu.
Mais la lentille, on reconnaît sa forme quand même. Elle n'est pas complètement...
Oui, bah, c'est un peu comme des pâtes en Italie. Il y a al dente et bien cuit. Mais là, c'est bien.
Il y a quand même des épices incontournables.
En fait, à la fin, ça, c'est le petit secret. Ça s'appelle le tarka. C'est-à-dire, à la fin, on prend une petite casserole quand c'est cuit et on chauffe du ghee. Quand c'est bien chaud, on met des graines de cumin, etc. Enfin, ça varie. On laisse chauffer. Ça chauffe très rapidement parce que c'est déjà bien chauffé, le ghee. Et quand ça commence presque à fumer, on verse tout ça avec un grand bruit, bien sûr. Dans le dal. Et ça s'appelle le tarka. Et ça me rappelle toujours cette histoire d'un Punjabi à Paris depuis longtemps. Et on lui avait demandé, est-ce que vous en sortez au niveau cuisine? Est-ce que vous avez goûté à la cuisine française? Qu'est-ce que vous pensez en tant que Punjabi de la cuisine française? Il a dit, c'est pas mal, j'ai goûté. Il y a un problème. Ils mettent pas de tarka. Et à la fin, le petit secret, la petite touche, ça manque.
C'est hyper bon.
Ah ouais?
Ah ouais, c'est délicieux. Délicieux, délicieux ce dal de lentilles jaunes fait par Akshay Bakaya, mon professeur de dal. Sanji, ce tarka, parce qu'il parle de secret, est-ce que c'est un secret largement partagé? Vous connaissiez?
Oui, bien sûr. Alors, secret, oui et non, mais c'est vrai que c'est vraiment la petite touche qui va venir faire la différence à la fin. En général, on va faire un dalle un peu pour la semaine, et puis à la dernière minute, au moment de le servir, on va rajouter effectivement cette espèce de friture d'épices avec des feuilles de curry frites. Souvent, on a du cumin ou des graines de moutarde dedans.
Akshay disait aussi qu'il mettait un petit peu de sucre, lui, dans son dalle.
Dans le dalle, oui. Oui, c'est bien. On aime bien rajouter des petites touches comme ça, toujours pour un souci d'équilibre.
D'accord, ça c'est très, très précis.
Ouais.
Et il faudrait qu'on cuisine un petit peu de légumes, là. J'aimerais bien que vous me cuisiniez un poivron farci.
Ah oui,
oui. Est-ce qu'on mangerait ce poivron farci avec un petit peu de dalle à côté?
Ah bah pourquoi pas, tout est possible. En fait, pour moi, le poivron, ça fait partie effectivement des légumes que j'affectionne. Farci encore plus, on pourrait le farcir avec du panir par exemple.
Donc avec le fromage.
Complètement. Et puis l'accompagner d'un petit dalle, ouais, ce serait une très bonne idée.
Un petit peu de riz.
Un petit peu de riz, un petit chutney à la noix de coco à côté, on est bien?
On est pas mal, on est pas mal.
Du monde. Clémence de Navi.
Girl de Zaki Russen sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde, le goût de l'Inde végétarienne aujourd'hui avec notre invitée Sandra Salmanji. Sanji, dont la grand-mère indienne lui a transmis le goût et la manière de cuisiner les épices. On parlait bien sûr d'épices, de farcir les légumes, et on n'avait pas encore abordé ce légume fondamental qui est l'okra ou lady's finger ou gombo.
Exactement.
C'est un de vos légumes préférés?
Alors moi, c'est vraiment un de mes légumes préférés. Je sais que on peut le cuisiner de plein de manières différentes. J'ai une recette dans mon livre, donc de cuisine indienne végétarienne, où je l'ai cuisiné à base un peu comme un korma. Donc un korma végétarien, donc à base
de... Un korma, c'est une sauce de coco?
Une sauce un peu crémeuse, justement. Et du coup, nous, les gombos, en fait, on va les cuisiner plutôt... On va essayer de retirer ce côté un peu gluant. Vous savez, quand on cuisine et quand on coupe les okras en deux, il y a une espèce de filet un peu gluant qui peut être gênant.
Là, on a un conflit de culture.
Ben oui, je sais.
Parce qu'en Afrique, on l'aime bien.
On adore comme ça. Et ça peut être gênant, mais je pense qu'il y a un aspect très culturel, c'est-à-dire que c'est une question d'habitude. Alors nous, pour neutraliser, nous les Indiens, pour neutraliser ce côté gluant, en fait, on va rajouter de l'acidité. Donc on va citronner les okras et ça va retirer ce petit côté gluant. Donc après, on peut tout simplement les faire sauter avec quelques épices, des oignons. Ça peut être très simple de cuisiner des okras. Ça peut être cuisiné un peu comme des haricots, finalement, un légume vert, quoi.
Oui, juste grillé, en fait, c'est possible aussi.
Oui, tout à fait. Moi, j'adore ça.
Faudra me faire goûter
avec plaisir.
La version indienne du gombo. Les pains, vous avez parlé du naan tout à l'heure, qu'on farcit avec du panir, normalement.
Oui,
fait avec du panir.
Ou avec pains... de l'ail aussi.
Ou de l'ail.
Un petit beurre clarifié à l'ail.
Délicieux.
Ça, c'est pas mal.
Il y a une multitude de pains aussi. Alors, dans votre livre, j'ai vu les mini chapatis et j'ai vu les parathas garnis.
Oui, alors les parathas, finalement, c'est un pain qui va être un peu... comme une sorte de feuilletage minute. Donc on va l'étaler beaucoup plus, la pâte. On va la garnir, donc pour qu'il soit un peu feuilleté, il va y avoir forcément un petit peu de matière grasse, donc souvent du ghee. Et du coup, en travaillant la pâte et en la superposant et en la rabaissant, etc., on va créer une sorte de feuilletage. Et effectivement, elles peuvent être ces paratha, ils peuvent être un peu garnis. On a des garnitures souvent très souvent végétariennes à base de légumes, de pommes de terre, d'oignons,
de coriandre,
de plein de bonnes choses qui va venir en fait composer finalement ce paratha peut devenir un peu un plat complet aussi.
Le dosa. C'est la dosa. Le dosa, c'est une galette faite de...
Faite à base de lentilles et de riz.
C'est une immense galette, en fait,
qui va être cuite sur une sorte de crêpière, une grande crêpière. Et du coup, en fait, ce dosa, il va être très croustillant. On va le rouler comme ça, un peu comme une espèce de papier journal. Alors souvent, même, on peut appeler ça des papers, je crois que ça s'appelle...
Du pain papier.
Pain papier, un peu. Il va être très croustillant et il va être souvent garni aussi d'un curry de pommes de terre avec des petites chutneys à côté. Et ça fait, vraiment, ça fait partie du petit déjeuner typique dans le sud de l'Inde.
Et c'est très nourrissant. Alors, j'ai découvert dans le nord de Paris, dans un restaurant végétarien indien, deux pains, l'idli et le puri.
Alors, on a effectivement, c'est le idli et le puri qui sont des pains qui sont pas du tout populaires ici. Le idli, en fait, c'est un pain qui est un pain qui va être vapeur à base de farine de riz.
On dirait presque un gâteau, en fait.
Ouais, c'est ça.
Un petit gâteau rond.
Ça aussi, c'est vraiment un pain de petit-déj qui va être consommé avec peut-être plus une petite soupe ou un petit dal. Donc, c'est une sorte de pain un peu arrondi, effectivement, un peu gonflé, donc vapeur. Et le puri, qui est complètement à l'opposé finalement, c'est un pain qui est frit.
Qui est frit et qui gonfle.
Et qui gonfle complètement. Donc, du coup, la manière dont on va abaisser la pâte, quand la pression qu'on va exercer,
alors faudrait
va
voir bien sûr.
Qui va gonfler à la friture.
Sanji est en train évidemment de faire de mimer le rouleau à pâtisserie pour abaisser la pâte évidemment.
C'est ça,
donc il faudrait voir.
Et du coup, quand on va au contact de la friture, en fait, le puri va gonfler. Donc c'est vraiment des petits pains frits à consommer avec modération parce que alors ça, par contre, ce sont un peu des bombes de caloriques forcément.
Je ne vous ai bien sûr pas du tout écouté parce que je ne savais pas que vous alliez me dire ça. Donc j'ai mangé dosa et puri. Et effectivement, ça a fait toute ma journée. Il y a des gâteaux, évidemment. On peut, l'alva, peut-être. Alors, une touche sucrée. Parce qu'on aime bien, nous, dans le goût du monde, terminer sur un petit... D'ailleurs, en Inde aussi, on aime bien terminer son repas ou...
Alors, on aime bien la touche sucrée. Mais alors, la touche sucrée, elle peut être aussi en début de repas. Parce que nous, on dit que le sucré va ouvrir l'appétit. Donc, du coup, on peut commencer un repas par une petite sucrerie. Et d'ailleurs, les Indiens, en fait, on appelle ça des mithas. Donc mita veut dire sucré et du coup ça va aussi créer l'équilibre dont on parlait tout à l'heure de ce repas. Et cette sucrerie peut être effectivement consommée soit en début, soit en milieu, soit même en fin de repas. Et toujours un peu avec modération, c'est-à-dire qu'on va pas avoir un vrai dessert, on va plus avoir une petite collation comme une petite portion finalement de halva. Et le halva ça veut dire un peu dessert en fait, ça va désigner toutes sortes en fait de sucreries indiennes.
Mais c'est un petit gâteau le halva ou c'est
souvent
rien à voir?
Souvent c'est des petits gâteaux.
Et c'est fait avec quoi?
Alors c'est fait soit on peut avoir un halva à la semoule par exemple qui va être à base de semoule de blé dur. On peut avoir des halvas aussi à la carotte. Vous savez ces petits gâteaux à la carotte avec du lait condensé.
Ça c'est bon ça aussi.
À la cardamome souvent.
Et on peut aussi apporter le sucré avec ce que l'on boit, avec les lassis.
Exactement. Alors le lassis, c'est une boisson donc à base de lait ribot.
C'est comme un yaourt en fait.
C'est une sorte de yaourt. Aujourd'hui on le fait à base de yaourt. Le lassis en fait il va avoir plusieurs propriétés et comme j'expliquais tout à l'heure avec le raita, ça va être aussi une sorte de rafraîchissant. Ça va permettre en fait de rafraîchir le palais pendant le repas. Donc je sais qu'ici en France le lassis à la mangue est très populaire parce que c'est bon tout simplement et que la mangue en fait tout le monde adore ça. Maintenant en Inde, on va peut-être plutôt avoir tendance à boire un lassis même salé pendant le repas qui va rafraîchir et qui va apporter aussi un peu ce côté apaisant pendant le repas.
Et de la fermentation qui est bonne pour le corps aussi,
ouais, tout à
pour
fait.
La flore intestinale. Alors je joue votre
la
livre.
Flore intestinale.
Je vois paillassam au lait de coco.
Ouais, le paillassam en fait c'est un peu notre riz au lait. Donc on va utiliser un riz un peu rond et on va venir faire condenser du lait très 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 longuement. On va créer notre propre lait concentré sucré et souvent il est aussi très associé à la cardamome.
Et le thé. Est-ce qu'on boit beaucoup de thé pendant le repas ou on va plutôt conserver les boissons chaudes en dehors des repas?
Le thé va être plus un peu aussi comme un moment de partage, un moment un peu de convivial. Par exemple, quand on va faire une pause dans la journée, on va boire le chai avec ses amis, ses collègues, en famille. Il va avoir un effet aussi un peu de coupe-faim finalement le chai, puisque c'est un thé au lait assez sucré. Un peu épicé, qui va venir un peu comme ça au cours de la journée, comme un peu un snack, ou même qui va accompagner aussi un snack. Par exemple, on associe très volontiers un samosa avec un chai.
Vous avez un petit garçon?
Oui.
Et qu'est-ce qu'il aime bien manger, lui? Est-ce qu'il aime bien cuisiner avec vous?
Alors, il adore. Il adore, mais parce que c'est vrai que j'ai beaucoup emmené dans la cuisine depuis qu'il est tout petit. Il a toujours été un peu sur le plan de travail à côté de moi. Lui, ce qu'il adore, c'est les pains indiens, forcément. Donc, les naans, ça, c'est pour en manger des tonnes. Et puis, en plus, l'avantage, c'est que j'arrive à lui faire un peu manger des légumes grâce à, justement, à mes petits mélanges d'épices qui font que, ou un petit peu de lait de coco par-ci, qui font que les légumes, ça passe un peu mieux à cet âge-là. Donc, du coup, c'est pas mal. Ça m'aide un peu.
Mais il a pas spécialement une dent sucrée?
Si, plus que moi, mais je pense que ça va quand même être un palais salé.
Cette transmission, elle est importante pour vous? Elle est dans la continuité?
Extrêmement importante. Bah oui, c'est normal. Aujourd'hui, en plus, moi, mes parents m'ont beaucoup transmis. Je suis d'origine 100% indienne. Et mon fils, qui est du coup moitié indien, moitié français, j'espère qu'il va aussi garder ce côté indien et avoir cette culture indienne qu'il va transmettre lui-même à ses enfants plus tard.
Un ingrédient, un ustensile. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet ustensile que vous affectionnez?
Alors, j'ai un petit ustensile que j'affectionne, qui est en fait une petite râpe à gingembre, parce que je trouve que c'est très pratique et que du coup, dès que je râpe mon gingembre sur cet ustensile, en fait, le gingembre vient embaumer la pièce. Donc ça, c'est vraiment le petit truc.
Et comment est-ce qu'elle est? Est-ce que vous pourriez nous la décrire?
En fait, c'est une sorte de petit support carré avec des petits picots qui ressortent. C'est un espèce de matériel de un peu comme une faïence, et sur lequel on vient tout simplement râper en fait le gingembre.
D'accord, c'est en faïence alors.
Ouais, c'est une sorte de faïence,
comme de terre cuite,
une lectrice
ou de...
qui m'a offert.
Une lectrice.
Oui. Et puis après, un ingrédient, je dirais la coriandre fraîche. Ça aurait pu être une épice aussi, mais voilà, j'ai un petit truc très particulier avec la coriandre fraîche pour en mettre partout.
Et pourquoi? Vous savez ou pas?
Ben, je trouve que ça apporte de la fraîcheur, ça apporte un peu de piquant. Ça, tout de suite, j'ai l'impression de voyager en fait quand je mets de la coriandre dans mes plats.
Eh bien écoutez, en tout cas, je retiendrai la râpe et toutes ces recettes que vous pourrez retrouver sur la page du Goût du Monde, puisque l'émission se termine, on a faim.
Ah bah oui, c'est
merci beaucoup, merci beaucoup Sandra Salmandi,
merci
pour ce voyage, pour toutes ces recettes partagées. Votre dernier livre, Bollywood Kitchen, est publié chez Mango, comme cuisine indienne végétarienne. Votre blog, Bollywood Kitchen, c'est facile à trouver, c'est bollywoodkitchen.com. Et à l'occasion de la sortie de votre livre, votre partenaire KitchenAid, qui fait des robots culinaires, propose...
Exactement, il y a un concours actuellement.
Écoutez bien.
Donc actuellement, sur ma page Instagram, effectivement avec mon partenaire KitchenAid, j'ai fait un petit concours. Donc il y a quand même un robot pâtissier que j'ai choisi à la couleur de la couverture de mon nouveau livre.
Qui est rose.
À gagner jusqu'à dimanche. Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut jouer. Et sur la page Instagram de KitchenAid, il y a 3 livres dédicacés aussi à gagner.
Que vous pourrez donc bien sûr consulter ensuite. Donc, vous avez bien retenu l'adresse de votre Instagram?
C'est Sanji Sandra. Vous pouvez retrouver aussi en tapant Bollywood Kitchen. Mais sinon, c'est Sanji Sandra. Et le concours sur la page de KitchenAid France.
Voilà, vous savez tout. Bonne chance à vous.
Bonne chance.
On est d'accord. Qu'est-ce que vous a inspiré un petit peu toute cette cuisine qui est bonne pour la santé, bonne pour le moral aussi, vu toutes ces couleurs? Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que vous cuisinez aussi les épices et comment? Le moringa, cher à Karine Kindo, qui partage avec nous chaque semaine une recette africaine depuis Ouagadougou. Ce moringa qui est aussi utilisé, bien sûr, en cuisine végétarienne. Dites-nous tout sur Facebook et WhatsApp. Vous connaissez le numéro 33 84 22 79 20. Cécile Benissier a réalisé cette émission. Merci à elle, à vous de nous être fidèles. Passez une excellente semaine et à très bientôt. Le Goût du Monde, ce sera samedi à l'heure du déjeuner. Très bientôt. Notez, on va changer dans nos tablettes. Bonne journée, bonne semaine à tous. Tout de suite, le journal sur RFI.